Alors ce soir, j'aimerais parler d'un sujet qui, je trouve, colle assez bien avec le message de dimanche dernier, même si ce n'est pas la suite, hein. La suite, j'enseignerai dimanche prochain, je parlerai du deuxième commandement. Mais vous allez voir que ça, voilà, ça fait un ensemble qui s'articule assez bien. Et ça peut être en lien aussi avec ce que nous traversons, que ce soit dans notre vie personnelle, mais aussi de façon corporelle et puis mondiale, hein, tout ce qui se passe avec la pandémie. Si je devais donner un titre au message ce soir, ce serait Le passé et le futur constituent notre espérance. Le passé et le futur constituent notre espérance. Je vais vous lire d'abord, même si je reviendrai à la fin du message sur ces textes, mais déjà j'aimerais vous les lire dès maintenant. C'est un passage d'Apocalypse chapitre 3. Des versets qui s'adressent à l'église de Sardes et à l'église de Philadelphie. Alors je vous préviens d'avance, nous allons lire beaucoup de textes ce soir. Il est bien aussi de temps en temps de pratiquer ce qu'on appelle la lecture biblique et le message s'y prête. Donc je vais lire beaucoup d'extraits de la parole de Dieu. Donc pour commencer, Apocalypse chapitre 3, versets 1 à 6, il est écrit ceci. Écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Donc pour vous aider à comprendre un petit peu le fil de ma pensée, là vous remarquerez au verset 3, Jésus dit, rappelle-toi, donc c'est le passé, rappelle-toi comment tu as reçu et entendu. Donc sous-entendu, c'est la parole de Dieu. Donc rappelle-toi comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Donc garde, c'est maintenant, mais c'est garder ce que tu as entendu et reçu par le passé. Et si tu gardes ces choses-là, bah repens-toi, parce que ce que tu vis n'est pas en corrélation, en accord avec ce que tu as reçu et entendu auparavant. Ensuite, il dit, si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marchent avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Donc c'est intéressant de voir cette expression là, la partie B du verset 3. Là, ça parle du futur. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Ce qui est intéressant là dans ce passage, à l'inverse du passage suivant que je vais lire et puis d'autres versets dans les Écritures, c'est qu'à cause de leur péché, l'église de Sardes risque de ne pas voir la venue du Seigneur Jésus comme quelque chose de joyeux. Rappelez-vous, Paul dit aux Corinthiens qu'au tribunal de Christ, certains vont être jugés, leurs œuvres, pardon, seront jugées et ils seront sauvés comme au travers du feu et ils pourront avoir de la honte. Donc là, s'agissant du futur, le Seigneur avertit en disant, si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, c'est-à-dire au moment où tu t'y attends pas et où tu auras honte. On en reparlera un petit peu à la fin du message. Toujours dans le chapitre 3, maintenant, on va voir ce que Jésus dit à l'église de Philadelphie. Apocalypse 3, versets 7 à 13. Écris à l'ange de Philadelphie, voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre, et personne ne fermera, celui qui ferme, et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance. Et là, on a un parallèle avec ce que je viens de lire, avec l'autre assemblée. Donc, et voici parce que tu as peu de puissance, et que tu as gardé ma parole. Vous voyez le point? Ils ont gardé ce qu'ils ont reçu par le passé. Tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir, se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. parce que tu as gardé la parole de la persévérance. Donc là, on a une précision. C'est que il nous faut garder avec persévérance en réalité. Toute la parole de Dieu que nous recevons a pour objectif d'engendrer la persévérance. Rappelez-vous, dans les Écritures, dans le Nouveau Testament, Jésus, quand il fait la, il enseigne, ou il, par contre, il raconte la, la parabole du semeur, il parle de personnes qui sont dans la joie dans un premier temps et qui oublient la parole à cause des soucis de la vie. Il est dit par ailleurs qu'on ne doit pas être des auditeurs oublieux. On doit aussi mettre en pratique la parole de Dieu et ce qu'on a entendu. Donc, garder la parole, c'est forcément être persévérant dans la vie chrétienne, persévérant dans les doctrines que nous recevons. Et ensuite, il dit, « Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra sera revêtu, etc. etc. » Donc là, on voit que Jésus parle ensuite du futur. Il parle de son avènement. Et donc là, on a deux facettes, si vous voulez. C'est comme si notre présent devait être pris en sandwich par le passé et le futur. C'est-à-dire qu'un chrétien vit des situations chaque jour et qui ne sont pas toujours faciles. Il y a parfois des tentations, il y a un combat spirituel. Mais ce qui va nous aider, ce ne sont pas forcément les choses présentes. Ce sont les choses que nous avons reçues dans le passé, d'un côté, et les choses qui nous attendent à l'avenir. Et c'est ce pain, je dirais, dans la nourriture que nous sommes au milieu de ces deux tranches de pain, on est pris en sandwich, et ce sont des haies de protection en réalité. Ce sont des murs de protection. Il ne s'agit pas, vous marquerez, de notre passé. Parce que si on regarde à notre passé, on peut être découragé, on peut regretter, on peut être amer, on peut se culpabiliser. Non, non, il s'agit du passé que Dieu nous a donné, c'est-à-dire une espérance qu'il nous a donnée dans le passé, grâce à l'œuvre qu'il a accomplie dans le passé. Ça s'appelle la bonne nouvelle, l'évangile, l'œuvre de la croix. Ça nous parle même aussi, avant cela, de la création, le plan de Dieu pour l'humanité. Voilà, Dieu nous a donné quelque chose. Et l'espérance future, c'est qu'il nous a donné des promesses. Il nous a aussi, s'agissant de la vie pratique, donné des certitudes s'agissant de la manière dont nous devons vivre, et on va récolter ce que nous semons. Si nous semons la vie éternelle, on va en profiter. Si nous semons de la corruption, on va évidemment récolter de la corruption. Donc on voit que la vie chrétienne et la persévérance dans la vie chrétienne dépend de ce que Dieu a fait et fera. Mais ça dépend aussi, du coup, de notre connaissance de ce qu'il a fait et fera, de notre foi dans ce qu'il a fait et fera, dans la puissance qu'il a manifestée dans ce qu'il a fait dans le passé, mais la puissance qu'il va manifester dans le futur. Bref, c'est cette protection divine, parce que Dieu a pris soin du passé et Dieu va prendre soin de l'avenir, qui nous rassure dans le présent. Et ça, c'est quelque chose de fondamental, parce que on sera mieux à même, du coup, d'appréhender les choses présentes. Il ne s'agit pas de nier le présent, il ne s'agit pas de le minimiser, il ne s'agit pas de dire que c'est pas très important, mais on doit d'abord regarder à ce que Dieu a fait, et on doit regarder ensuite à ce que Dieu va faire, et parce que j'ai ces choses-là en tête, je vais être aidé dans ma marche chrétienne. On peut le voir dans, je sais pas, je peux imaginer que Joseph, lorsqu'il était en Égypte, devait se souvenir du songe ou des songes qu'il avait reçus par le passé, et il devait espérer en un avenir qui lui permettrait de voir les prophéties et les rêves s'accomplir. Et c'est parce que Joseph était pris entre ces deux idées, ces deux pensées, qu'il a pu vivre au jour le jour, dans le présent, pieusement. Vous remarquerez que ça soit dans notre vie, avec des frères et sœurs qu'on a pu connaître ou qu'on connaît, ou si on regarde dans les Écritures, ce n'est pas la seule raison, mais souvent, les gens commencent à minimiser ce que Dieu a fait dans le passé, et ne croient plus dans ce que Dieu va faire, et ce qui fait que le présent prend une importance démesurée. Je parle spirituellement. Au niveau de l'expérience, le présent est là, forcément, c'est le présent qu'on vit. Mais je parle au niveau de l'espérance, si vous voulez, de la vie spirituelle. Du coup, dans le présent, les gens vont essayer de chercher du réconfort, alors que parfois, il n'y a rien de réconfortant dans le présent. En revanche, dans le passé que Dieu nous a donné et dans les promesses à venir, il y a du réconfort. Et le Saint-Esprit, d'ailleurs, peut nous rappeler les Écritures, lui qui est le Consolateur, et il va nous rappeler ces choses-là. Donc, il est important de prendre garde, de ne pas être trop influencé par le présent qui nous entoure. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas l'affronter avec le Seigneur, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas le discerner. Preuve, il nous est demandé de prier. Lorsqu'on prie, on prie des fois à cause de situations présentes. Donc, il ne s'agit pas de l'occulter, mais c'est de ne pas être influencé spirituellement. D'ailleurs, même ne pas être influencé quand tout va bien, parce que parfois, lorsque tout va bien, mon patron m'augmente, je pars en vacances, j'ai des amis, mon mariage va bien, mes enfants travaillent bien à l'école, on peut être très content en pensant que spirituellement on va bien. Mais c'est pas sûr en réalité. On peut très bien être exalté dans nos émotions dans le moment présent, mais oublier le passé et oublier le futur. Donc vous voyez que il faut faire attention, c'est que, encore une fois, le présent, qu'il soit synonyme de souffrance ou au contraire de joie, ne sont pas forcément des indicateurs de notre valeur spirituelle et de ce que nous sommes en train de vivre avec le Seigneur. Ce qui est important, c'est de lui faire confiance. Et on va lui faire confiance peu importe les situations que nous traversons. Mais il est là, ce présent. Donc, souvent, il a tendance à nous décourager. Il y a encore ce corps de mort qui est le nôtre. Le péché est encore là, ce qui fait que nous péchons encore. Quand je dis le péché, c'est la nature pécheresse en nous. Le monde est encore là. Et le monde est pas, loin s'en faut, en accord avec les Écritures. Le combat spirituel est là. L'état de l'Église aussi peut nous démoraliser parfois. On constate que c'est pas comme ça devrait être. Alors occupons-nous déjà de notre vie spirituelle à nous, parce que si nous on va mieux, l'Église ira un peu mieux. C'est déjà, ça c'est un point important. Mais c'est vrai que ça, on peut être démoralisé des fois du manque d'engagement des croyants, du manque d'engagement financier, de manque d'engagement au niveau de l'emploi du temps, de partager les dons, etc. Et donc, le passé que Dieu nous a donné et le futur qu'il va nous donner vont nous garder. Je lisais dernièrement un ouvrage, d'ailleurs ça m'a inspiré, quelques réflexions m'ont inspiré pour ce message, mais il y en a qui doivent connaître, c'est McIntosh, donc qui est un auteur des frères, ou Darby, se diront certains. Et il utilise une expression très intéressante, il dit « faisons attention de ne pas glisser en tant que chrétien dans une assemblée locale dans laquelle on se plaît ». Il dit « faisons attention de ne pas glisser dans un fraternalisme mort ». Et cette expression m'a choqué. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que il n'utilise pas l'expression « communion fraternelle » parce que ce serait trop positif. Il dit « un fraternalisme mort », c'est-à-dire que tout va bien dans notre assemblée, on a des amis chrétiens, on s'appelle, on s'envoie des SMS, on mange pas ensemble en ce moment peut-être, mais en tout cas on fait plein de choses entre chrétiens, on se manifeste de l'amour, et qui est peut-être vrai, c'est-à-dire qui est issu de la parole de Dieu, et donc il y a un processus de sanctification, et donc on prend notre croix dans pas mal de domaines, donc c'est une vraie communion fraternelle, mais au bout d'un moment, pourquoi ça devient un fraternalisme mort? Parce qu'on pense que la communion fraternelle est une fin en soi, que voilà, on est arrivé au bout. J'ai ma vie avec Dieu, je suis dans une bonne église, j'ai des amis, ça me protège du monde comme dans un cocon. Non, même si l'église est un lieu de protection, mais la parole de Dieu et l'œuvre de Christ dans le passé, et ce qu'il va faire, c'est-à-dire ce qu'il va faire comme œuvre dans le futur, c'est cela notre protection. Pourquoi les églises n'évangélisent pas ou peu, par exemple? Que ça soit les individus qui témoignent plus autour d'eux, alors qu'au début de leur conversion, ils gardaient la parole, ils gardaient l'espérance, ils en parlaient à tout le monde, ils sont devenus chrétiens. Et même des fois, ça faisait des vagues, peut-être par un manque de sagesse ou autre. En tout cas, il y avait un message qui était communiqué. Et puis après, on est beaucoup plus timoré, tout simplement parce qu'on ne garde pas avec persévérance la parole. Et ce qui fait que ce fraternalisme mort nous fait oublier la seconde venue de Christ, qui est à la fois notre espérance, mais en même temps qui peut être un malheur pour ceux qui connaissent pas Christ. Et du coup, on est consumé par cette vérité-là. C'est-à-dire que la joie que nous avons de savoir qu'un jour Christ va revenir, nous pousse à diffuser ou à partager cette joie à ceux qui ne la connaissent pas, cette espérance. Et un peu comme quand, lorsqu'il y a un incendie, déjà, des fois les gens, c'est intéressant, et je comprends humainement, hein, c'est pas le souci, mais à un moment donné, ouvrons les yeux. Si vous avez un incendie dans votre immeuble, vous en apercevez, et que vous savez, vous avez entendu de la musique derrière la porte du voisin de palier, donc apparemment il n'entend pas, il ne sait pas ce qui se passe. Est-ce que vous allez sonner ou frapper à sa porte pour l'avertir qu'il y a un incendie? J'ose imaginer que oui. Et d'ailleurs, si vous ne le faites pas, c'est même en France, c'est un délit de ne pas le faire. Mais vous n'êtes pas en train de vous dire, ah, je le connais pas, non, je ne vais pas sonner à sa porte, je ne le connais pas. Non, vous allez le faire. Parce que votre timidité est mise de côté par rapport à l'urgence. Mais le feu dans la géhenne, c'est la même chose. Les gens vont vivre, je ne sais pas quoi exactement, mais ça va être des souffrances éternelles. Et donc, cette urgence, même si on ne connaît pas les gens, on va leur parler. C'est pour ça qu'on évangélise dans la rue. C'est pour ça qu'on utilise les occasions qui sont les nôtres pour que la parole de Dieu, l'espérance que nous avons, passée et future, soit communiquée. Peu importe le présent, ma timidité, qu'est-ce que les gens vont dire, etc., etc. Alors après, qu'il faille le faire avec sagesse, je vous y encourage. Est-ce qu'il faut pas, il faut éviter de dire des bêtises? Absolument. C'est-à-dire que on en parlait tout à l'heure, être formé au maximum. On doit, mais cette vie que nous vivons avec Christ doit nous pousser à témoigner de cette espérance. Et donc du coup, il y a plus ce présent qui nous paralyse, je dirais. Des fois, ce sont les circonstances difficiles qui nous paralysent. Parfois, c'est la timidité qui nous paralyse, la crainte nous paralyse, la dépression nous paralyse. Mais un chrétien vivant, c'est quelqu'un qui vit grâce à cette pression du passé et de l'avenir. Voilà ce que Christ a fait, la croix, et voilà ce que Christ va faire. Un jour, nous allons rentrer dans l'éternité. Et nous croyons de la résurrection. Et c'est ainsi qu'on va pouvoir lutter contre le courant. On sait, hein, le christianisme a été symbolisé dès le début par un poisson. Parce que d'un côté, Jésus a parlé qu'on sera pécheurs d'hommes, il y a aussi les miracles des poissons, donc le signe de ralliement des chrétiens, c'était le poisson. Mais vous savez, un poisson, lorsqu'il est vivant, il peut à la fois descendre d'une rivière, mais aussi nager à contre-courant. Vous connaissez tous, j'imagine, ces reportages, on voit des saumons sauter pendant des heures et des heures pour essayer de produire la vie en amont. Pour pouvoir pondre des œufs, on se demande comment ils font. Vraiment, on se demande. Et puis, s'il faut redescendre le courant, ils le redescendent. Par contre, si vous voyez un poisson mort, alors là, c'est le courant qui dicte sa destinée. C'est plus lui. Eh ben, nous, en tant que chrétiens, il faut pas être des poissons morts. Il faut être des poissons vivants. Et un poisson vivant, parfois, il nage à contre-courant. Il nage à contre-courant des modes. Si César dit vous devez adorer ma statue dans tout l'empire, ben, il y a des chrétiens qui vont pas le faire. Ils vont aller au cirque. Ils vont mourir martyrs. Ils vont vivre à contre-courant. Si le Nabuchodonosor ou la cour de Nabuchodonosor oblige les amis de Daniel à manger les mets qui ont été consacrés aux idoles, eh ben ils vont pas le faire. Ils vont aller à contre-courant. Mais ils vont manifester la vie de Dieu. Et comment ils vont manifester la vie de Dieu? Parce qu'ils ont cru dans ce que Dieu a fait envers la nation d'Israël, et ils croient, à l'époque, dans ce que Dieu fera pour la nation d'Israël, c'est-à-dire la restauration, la fin de la déportation. Et ça va être la même chose avec Daniel quelque temps plus tard. On me demande d'adorer la statue de Nebuchadnezzar. Non, je ne le ferai pas. Moi, j'ouvre mes fenêtres en direction de Jérusalem et je prie, mon Dieu. Pourquoi? Parce que je veux avoir le regard en direction de Jérusalem et du coup, ça implique que les fenêtres ouvertes feront que peut-être on me verra adorer Dieu en direction de Jérusalem. Mais en tout cas, je ne vais pas me soumettre à ça. Pourquoi? Parce que pareil, Daniel croyait dans la parole reçue, il croyait dans la loi de Moïse, il croyait dans ce que Dieu avait fait par le passé. Il croyait dans ce que Dieu avait fait dans la vie d'Abraham par le passé. Il croyait dans l'alliance vis-à-vis du peuple juif. Et il croyait à la restauration. Il croyait que cet exil allait un jour s'arrêter et que l'Éternel continuait d'être vivant, même si momentanément Israël était mort. C'est-à-dire qu'il n'existait plus. Le peuple juif existait encore, mais la nation d'Israël n'existait plus à ce moment-là. Et donc nous voyons des personnes qui avaient la foi, mais qui ne regardaient pas aux circonstances. Ils ne regardaient pas à l'opposition, ils ne regardaient pas aux difficultés, à la peur, au découragement. Ils regardaient au passé et au futur, et ça leur permettait de manifester le Dieu vivant dans le présent. Et ça, c'est extraordinaire, cette vie de foi. C'est pour ça qu'on a besoin de méditer la parole de Dieu, de ne pas être indifférent vis-à-vis de la croix. La Sainte Cène, d'ailleurs, typifie ça. Rappelez-vous ce que Jésus a dit. Donc il dit, prenez ceci, ceci est mon corps, prenez ceci, ceci est mon sang. De quoi ça nous parle aujourd'hui? Ça nous parle de la croix passée, de ce que Dieu a fait il y a 2000 ans, en Jésus-Christ. Mais il dit, vous ferez cela jusqu'à ce que je revienne, le futur. Donc nous voyons que la scène est elle aussi un rituel qui nous plonge dans le passé, dans le futur, en attendant qu'il revienne. Et c'est ça qui fait la joie du corps de Christ, que ça soit au travers de la scène elle-même, mais je dirais le résultat de la scène, c'est que notre communion fraternelle n'est pas un fraternalisme mort qui est celui de la vie naturelle, pour pas parler de la chair. On s'entend bien, on a la même doctrine, on est dans la même église, on part en vacances ensemble, on va au restaurant ensemble, on prie ensemble. Tout ça, c'est très bien. Mais il faut que la valeur de la croix et de l'œuvre de Christ prévalent dans notre vie, et de la même manière, cette attente vis-à-vis du retour de Christ doit imbiber notre présent. Et lorsque le corps de Christ est imprégné de ces deux vérités-là, là, ce n'est plus un fraternalisme mort, c'est une communion fraternelle. Il se passe quelque chose. D'ailleurs, on va un peu plus loin. Dans l'histoire de l'Église, jusqu'à aujourd'hui, dans toutes les trois branches, je dirais, que ça soit catholicisme, protestantisme et chez les orthodoxes, vous avez des communautés où les gens vont dans un endroit où devrait y avoir la communion fraternelle, mais où les gens ne croient même pas en Dieu. Ils y vont par habitude, par tradition familiale, ou je ne sais pas trop pourquoi ils y vont d'ailleurs. Combien de gens font baptiser leurs enfants alors qu'ils ne croient pas en Dieu? Combien de gens se marient à l'église, de moins en moins, mais alors qu'ils ne croient pas en Dieu? C'est quand même impressionnant. Donc vous voyez jusqu'où ça peut aller, le fraternalisme mort, c'est-à-dire que on est bien ensemble. Ah, moi, s'il n'y a pas un mariage à l'église, c'est pas un vrai mariage. Ouais, mais ça, c'est du fraternalisme mort. Donc voilà, alors nous on en est, j'espère pas à ce point-là, mais l'Église doit faire attention à ça. Je parle l'Église universelle, mais aussi peut-être notre Église locale, c'est de tenir ferme dans ce que nous avons reçu, comme Jésus le dit, hein, j'ai pour toi ou contre toi le fait que tu aies gardé ou pas gardé ma parole, et puis on va garder cette espérance. Ça me fait penser, vous savez, dans la communauté juive. Je crois que c'est pour Yom Kippour, je dis peut-être une bêtise, je suis pas sûr, mais en tous les cas, lorsqu'ils font Pessa et qu'ils sont à table, il y a une place qui est laissée vide pour que, au cas où Élie revienne. Donc ils laissent une place pour Élie. Moi, ma question, c'est est-ce qu'on laisse une place pour Jésus-Christ au cas où il revienne dans notre vie? Vous voyez? Une place dans notre vie maintenant. Où est le Jésus qui va revenir dans ma vie? Lorsqu'il va revenir, est-ce que ça va être comme un voleur, comme il le dit à l'Assemblée dans Apocalypse 3, et les gens vont dire « Ah mince, j'ai pas préparé de place pour toi ». Mais parce qu'en fait, les gens laissent pas la place à Jésus-Christ dans leur présent. Mais comment je vais garder la place à Jésus-Christ dans le présent, en l'honorant pour ce qu'il a fait par le passé, et en lui faisant confiance pour ce qu'il fera dans le futur? Et c'est comme ça qu'on va tenir ferme. Et ce qui est intéressant, si vous regardez un petit peu, et c'est là que nous allons lire un peu quelques textes, pour vous montrer un petit peu ce dont je parle ce soir, on va parler d'abord du passé, la vérité qui a été communiquée dans ce qui nous a été donné. Et ce qui nous a été donné, évidemment, C'est la parole de Dieu. Là-dedans, il y a la notion du péché, le salut, comment vivre, comment adorer Dieu. Il y a tout ça. Enfin, je vais pas faire le résumé de tous les sujets qu'il y a dans les Écritures. Mais ce qui est important, c'est qu'à chaque fois que nous constatons des réveils dans l'Ancien Testament, à chaque fois, ils reviennent aux fondamentaux. Ils reviennent à ce qu'ils avaient reçu au début. Et je vais vous le montrer, par exemple, du temps d'Ézéchias. On sait qu'Ézéchias a été un outil de Dieu pour susciter un réveil dans le royaume d'Israël. Et lisons un petit peu ce qui est dit en 2 Chroniques chapitre 30. Alors il y a 27 versets, on va les lire. 2 Chroniques chapitre 30, enfin tout le chapitre. Ézéchias envoya des messagers dans tout Israël et Juda, et il écrivit aussi des lettres à Éphraïm et à Manassé, pour qu'ils vinssent à la maison de l'Éternel à Jérusalem, célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le roi, ses chefs et toute l'assemblée avaient tenu conseil à Jérusalem, afin que la Pâque fût célébrée au second mois. Et regardez pourquoi il la célèbre au second mois et non pas au premier mois, verset 3. Car on ne pouvait la faire en son temps, parce que les sacrificateurs ne s'étaient pas sanctifiés en assez grand nombre et que le peuple n'était pas rassemblé à Jérusalem. Donc ça vous montre bien que la Pâque n'était plus pratiquée, ça faisait plus partie des habitudes, et même les prêtres ne se purifiaient pas, ils n'étaient pas prêts pour célébrer la Pâque. Verset 4. La chose ayant eu l'approbation du roi et de toute l'assemblée, ils décidèrent de faire une publication dans tout Israël, depuis Beersheba jusqu'à Dan, pour que l'on vînt à Jérusalem célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Car elle n'était plus célébrée par la multitude comme il est écrit. Je ne sais pas si vous imaginez, la Pâque n'était plus célébrée en Israël. C'est incroyable, c'est la sortie d'Égypte, c'est le début de la nation d'Israël. C'est le fondement de leur histoire, ils avaient oublié. C'est comme si aujourd'hui on voulait plus prendre la Sainte Cène, ou qu'on ne célèbre plus Pâques, qu'on ne parle plus de la croix. Ensuite, il est dit, au verset 6, les coureurs allèrent avec les lettres du roi et ses chefs dans tout Israël et Juda, et d'après l'ordre du roi, ils dirent, enfants d'Israël, revenez à l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, afin qu'il revienne à vous, reste échappé de la main des rois d'Assyrie. Ne soyez pas comme vos pères et comme vos frères qui ont péché contre l'Éternel, le Dieu de leur père, et qui l'a livré à la désolation, comme vous le voyez. Ne raidissez donc pas votre cou comme vos pères. Donnez la main à l'Éternel, venez à son sanctuaire qu'il a sanctifié pour toujours, et servez l'Éternel votre Dieu pour que sa colère ardente se détourne de vous. Si vous revenez à l'Éternel, vos frères et vos fils trouveront miséricorde auprès de ceux qui les ont emmenés captifs, et ils reviendront dans ce pays. Car l'Éternel votre Dieu est compatissant et miséricordieux, et il ne détournera pas sa face de vous si vous revenez à lui. Les coureurs allèrent ainsi de ville en ville dans le pays d'Éphraïm et de Manassé, et jusqu'à Zabulon. Mais on se riait et l'on se moquait d'eux. Cependant, quelques hommes d'Aser, de Manassé et de Zabulon s'humilièrent et vinrent à Jérusalem. Dans Juda aussi, la main de Dieu se déploya pour leur donner un même cœur et leur faire exécuter l'ordre du roi et de ses chefs, selon la parole de l'Éternel. Un peuple nombreux se réunit à Jérusalem pour célébrer la fête des pains sans levain au second mois. Ce fut une immense assemblée. Ils se levèrent, et ils firent disparaître les autels sur lesquels on sacrifiait dans Jérusalem, et tous ceux sur lesquels on offrait des parfums, et ils les jetèrent dans le torrent de Cédron. Donc là, je précise, les autels qu'ils sont en train de jeter, c'est les autels pour les idoles, d'accord, qui étaient à Jérusalem. Donc ils les jettent dans un fleuve. Ils immolèrent ensuite la Pâque le 14e jour du second mois. Les sacrificateurs et les lévites, saisis de confusion, s'étaient sanctifiés et ils offrirent des holocaustes dans la maison de l'Éternel. Ils occupaient leur place ordinaire, conformément à la loi de Moïse, notre Dieu, et les sacrificateurs répandaient le sang qu'ils recevaient de la main des lévites. Comme il y avait dans l'assemblée beaucoup de gens qui ne s'étaient pas sanctifiés, les Lévites se chargèrent d'immoler les victimes de la Pâque pour tous ceux qui n'étaient pas purs, afin de les consacrer à l'Éternel. Car une grande partie du peuple, beaucoup de ceux d'Éphraïm, de Manassé, d'Issacar et de Zabulon, ne s'étaient pas purifiés, et ils mangèrent la Pâque sans se conformer à ce qui est écrit. Mais Ézéchias pria pour eux, en disant « Veuille l'Éternel qui est bon pardonner à tous ceux qui ont appliqué leur cœur à chercher Dieu l'Éternel, le Dieu de leur père, quoiqu'ils n'aient pas pratiqué la sainte purification. L'Éternel exauça Ézéchias et il pardonna au peuple. Ainsi, les enfants d'Israël qui se trouvèrent à Jérusalem célébrèrent la fête des pains sans levain pendant 7 jours avec une grande joie, et chaque jour les Lévites et les sacrificateurs louaient l'Éternel avec les instruments qui retentissaient en son honneur. » Donc, juste, je veux faire une pause avant de terminer ce chapitre. Imaginez là, les holocaustes, le roi qui intercède en faveur de ceux qui ne devraient pas, selon la loi, être là. Donc, on voit que Dieu va au-delà, parce qu'il est miséricordieux. Le sang qui coule de partout, les musiciens qui jouent de la musique, des cris de joie pendant 7 jours. Vous imaginez ça? 7 jours. Et Dieu se repent de leur faire du mal. Et au verset 22, Ézéchias parla au cœur de tous les Lévites qui montraient une grande intelligence pour le service de l'Éternel. Ils mangèrent les victimes pendant 7 jours, offrant des sacrifices d'action de grâce et louant l'Éternel, le Dieu de leur père. Toute l'assemblée fut d'avis de célébrer 7 autres jours. Vous vous rendez compte? La joie présente parce qu'ils reviennent aux fondamentaux. Ils se conforment à la loi de Moïse. Et parce qu'ils se conforment à la loi qu'ils ont reçue au début, que se passe-t-il? Ils reviennent à l'Éternel, Dieu revient vers eux. Ils font pas les choses de façon parfaite, mais c'est dans le même esprit, dans un bon esprit, donc Dieu va au-delà. Et ça suscite de la joie à un tel point qu'ils en veulent pour 7 jours encore. Ensuite, verset 24, « Car Ézéchias, roi de Juda, avait donné à l'assemblée 1 000 taureaux et 7 000 brebis, et les chefs lui donnèrent 1 000 taureaux et 10 000 brebis, et des sacrificateurs en grand nombre s'étaient sanctifiés. Toute l'assemblée de Juda et les sacrificateurs et les Lévites et tout le peuple venu d'Israël et les étrangers venus du pays d'Israël ou établis en Juda. » C'est-à-dire que la bénédiction déborde tellement qu'il y a même des étrangers qui font partie de cette fête. Grâce à la lumière de l'Éternel, la puissance de la repentance, le témoignage, la lumière du monde qu'est Israël à ce moment-là, même les étrangers sont touchés. Et les étrangers venus du pays d'Israël ou établis en Juda se livrèrent à la joie. Il y eut à Jérusalem de grandes réjouissances. Et regardez ça. Depuis le temps de Salomon, fils de David, roi d'Israël, rien de semblable n'avait eu lieu dans Jérusalem. Les sacrificateurs et les Lévites se levèrent et bénirent le peuple, et leur voix fut entendue, et leur prière parvint jusqu'aux cieux, jusqu'à la sainte demeure de l'Éternel. Donc là, qu'est-ce que nous voyons? On appelle ça un réveil. Mais un réveil, c'est pas uniquement « waouh, il faut qu'il y ait la descente du Saint-Esprit ». Non, un réveil, c'est aussi un réveil vis-à-vis des ténèbres. C'est une ouverture vers la lumière, mais on ferme la porte aux ténèbres. Et que se passe-t-il? Là, il y a une grande joie qui s'opère. Et ce que je trouve extraordinaire, là, qui m'a béni quand j'ai relu ce passage, c'est que là, qu'est-ce qui est demandé au peuple? Ne faites pas comme vos pères. Et c'est ce qu'ils vont faire. C'est intéressant parce que souvent, dans les églises, hein, c'est un lieu commun, parfois les parents ont du mal à faire accepter à leurs enfants ou aux ados de vivre selon les critères de l'évangile ou de la Bible. On nous pousse à faire des compromis. Et donc c'est des fois le piège qu'il y a dans l'Église, génération après génération, parce que compromis sur compromis, au bout d'un moment, il n'y a plus la personne de Christ dans l'Église. Mais là, c'est le contraire. C'est les jeunes qui vont dire, vous les vieux, vous n'avez pas marché correctement avec Dieu, et nous, on va célébrer la Pâque comme il n'y en a pas eu une depuis quand? Depuis Salomon. C'est-à-dire que les jeunes, et on est tous jeunes d'une certaine manière, mais en tous les cas, les jeunes, ce que je veux dire par là, c'est pas parce qu'il y a eu des dérives que c'est trop tard. C'est pas parce qu'il y a eu des mauvaises habitudes qu'il faut baisser les bras. Vous regardez dans l'histoire de l'Église, les réveils qu'il y a eu, ce sont des gens qui à un moment donné se sont levés, qui ont prêché, et des auditeurs qui ont suivi le message, et qui ont dit non, nous on sort de là, on veut plus rester dans ce genre d'assemblée, on crée autre chose, parce que on veut aller de l'avant avec le Seigneur. Et on revient aux fondamentaux, c'est-à-dire qu'on oublie la théologie libérale, on oublie les compromis sociaux, on oublie tout ce que le monde essaie de nous inculquer, on n'accepte pas que le monde vienne gérer l'Église, c'est Christ qui doit régner dans son Église, et on va de l'avant, et ce qui fait que il peut, oui, c'est possible dans le milieu chrétien d'avoir des réactions, hein, le mot réactionnaire est souvent négatif, mais ça peut être positif, c'est qu'on réagit au péché, on réagit au mal, et donc on revient aux fondamentaux. Parce que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement, et que Jésus-Christ a dit que la parole de Dieu ne passera pas. D'accord? La parole de Dieu ne passera pas. Qu'il faut même pas toucher un iota de la parole de Dieu. Ça, c'est ce que Jésus a dit aussi. Et mes amis, qu'est-ce que ça produit dans le présent? De la joie, de la sérénité, de la paix. Ça fait pas de nous des gens supérieurs ou hautains. Non, ça c'est pas la vraie piété. On se compare pas aux autres, on n'est pas là en train de dire nous on est le reste, hein, nous on est les meilleurs, les autres c'est pas bien. Non, 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 on est des sauvés par grâce, on n'est pas mieux, c'est on a obtenu la miséricorde de Dieu. La seule chose c'est qu'on prend en compte ce que Dieu a fait pour nous. On est peut-être pire que les autres au départ, mais on prend en compte ce que Dieu a fait pour nous et on prend pour valide et comme déjà accompli ce que Dieu va faire dans le futur. Et parce que nous sommes environnés par ces deux murs de protection, notre présent est beaucoup plus serein, joyeux, au milieu des circonstances difficiles. Je rappelle une chose, hein, c'est qu'on le voit dans le texte, une partie de la nation, du peuple a été déportée par les Assyriens. Il y a eu déjà des drames en Israël. La nation n'est pas au fait de sa gloire, elle n'est pas puissante. Elle n'est pas comme au temps de Salomon, par exemple. Mais peu importe, on revient aux fondamentaux. Vous savez, quand vous regardez le livre des Juges, on l'enseigne souvent à l'Institut biblique, ça, quand on traite de cette période, c'est qu'on dit souvent que le livre des Juges, c'est un graphique, vous savez, en dents de scie. C'est-à-dire réveil spirituel, chute spirituelle. Ensuite, le peuple invoque Dieu, Dieu envoie un libérateur, réveil spirituel. Ensuite, une fois libéré, le peuple oublie Dieu, il redescend spirituellement, etc. Donc c'est un graphique en dents de scie, le livre de Juges. Mais un graphique en dents de scie descendant. C'est-à-dire que il y a une montée et puis ensuite une grande descente. Et la remontée n'est pas au niveau de l'étape précédente. C'est-à-dire que ça monte et ça descend, mais si vous regardez le début et la fin du livre, en fait la pente, elle est complètement descendante, avec des soubresauts. Et si vous voulez, le vrai réveil, c'est quand on se dit pas ce que le diable essaye de nous faire croire. C'est « Ah, oui, bon, t'as fait un petit compromis dans ce domaine-là, mais en même temps, c'est mieux que rien. Tu marches quand même avec le Seigneur. Oui, mais par rapport à d'autres, t'es quand même pas mal. Ah, mes enfants, oui, bon, c'est sûr, hein, c'est pas comme dans le temps, c'est pas comme la Bible nous l'enseigne, mais bon, au moins, il vient à l'église le dimanche. » C'est-à-dire ce côté de faire des compromis, mais ce sont des dents de scie descendantes, ça. Et au bout d'un moment, on se dit, où est l'Église? Où est Jésus-Christ? Non, le vrai réveil, c'est de ne pas faire de compromis avec le péché, avec la parole de Dieu, avec notre vie. Et individuellement, si on en a besoin, je ne sais pas si certains de vous sont peut-être touchés par ça, mais n'ayez pas peur d'être radical dans votre repentance. Faut pas être dire, bah là, voilà, je couche avec quelqu'un, mais bon, allez, je couche plus avec lui, mais je l'embrasse. Ou alors je l'embrasse pas, mais je passe du temps avec lui, alors que je sais que c'est pas une relation qui facilite les bonnes mœurs. Non. Je buvais 10 verres d'alcool par jour, j'en bois plus que 3. Non, non, pas de compromis. Revenons aux fondamentaux. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Voyons le réveil sous Josias. Josias, c'est quand même extraordinaire. Le gamin, c'est, on peut le dire, hein, il est roi à 8 ans. Donc, on peut pas dire qu'il est au fait de sa gloire et de sa puissance. Hein. Il est roi, il a des responsabilités à prendre. Nebuchadnezzar est aux portes du pays. Donc, c'est pas non plus une situation géopolitique très intéressante. Qu'est-ce qu'on voit avec Josias? De la même façon, il n'a pas abaissé la parole de Dieu. Alors là, je vais pas lire tout le passage, mais souvenez-vous, ils avaient tellement oublié la loi de Moïse qu'ils avaient oublié où était la loi. Moi, je vous racontais une anecdote, je l'ai déjà racontée, je pense, parfois, mais ça m'avait tellement choqué, ça se prête là au contexte de ce message. Je m'étais rendu à l'enterrement de mon grand-père, Et donc ça se passait dans une salle à côté de l'hôpital, avant d'aller au cimetière. Et comme dans ma famille, on sait que je suis pasteur, on m'avait demandé de lire un passage biblique et de le choisir. Donc j'avais choisi un psaume, donc j'avais envoyé les références, etc. J'arrive dans la salle, qui était, je dois le dire, hein, c'était un prêtre catholique qui officiait. Et donc il y avait un ordre, je devais intervenir à tel ou tel moment. Mais moi, j'étais venu les mains dans les poches. À l'époque, il n'y avait pas les téléphones portables avec la Bible dedans. Et donc, j'arrive à la cérémonie, et puis le prêtre avait oublié que je disais un passage biblique. Alors il me dit, donc vous allez intervenir, qu'est-ce que c'est? C'est un chant, un poème? Je dis, non, non, c'est le psaume, je ne me rappelle plus le numéro maintenant, que je vais lire. D'ailleurs, si vous avez une Bible, il fait, ah, une Bible. Ah, où je vais trouver ça? Attendez. Alors, il est allé, je vous jure que c'est vrai, il est allé dans un placard, il a sorti, vous savez, les grosses bibles un peu de cérémonie, avec un papier très épais, en cuir, voilà, la grosse bible. Mais une couverture de poussière sur la couverture elle-même, il a été obligé d'épousseter. Vous voyez, je dis, mais c'est pas vrai, c'est un sketch. C'est un sketch. Et du coup, j'ai pu lire mon texte. Mais voilà, il faut pas qu'on en arrive là, vous êtes d'accord avec ça? Mais il faut revenir aux fondamentaux. Et à 8 ans, c'était pareil. Josias, il constate, la Bible a disparu, l'Ancien Testament, la loi de Moïse a disparu. Et il retrouve le manuscrit dans le temple. Et puis ils disent, oh, on a trouvé un livre, dis donc. Et ils s'aperçoivent que c'est la loi de Moïse. Vous imaginez un peu, ils savaient plus la parole de Dieu. Et ils se mettent à la lire, et là, ça provoque un réveil en disant, mais attends, notre vie va de travers là. Entre ce que nous vivons et ce que la loi de Moïse dit, donc branle-bas de combat général, on se repent et on va de l'avant. Et je vous lis le texte, 2 Chroniques, chapitre 34, versets 29 à 33. Le roi, donc Josias, fit rassembler tous les anciens de Juda et de Jérusalem. Vous remarquerez dans les deux passages à chaque fois, le peuple se rassemble. Donc la notion corporelle est importante, hein, mais c'est pas un fraternalisme mort. C'est une vraie communion autour de la vérité. Donc le roi fit assembler tous les anciens de Juda et de Jérusalem, puis il monta à la maison de l'Éternel avec tous les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem, les sacrificateurs et les lévites et tout le peuple, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Il lut devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance qu'on avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Le roi se tenait sur son estrade et il traita alliance devant l'Éternel, s'engageant à suivre l'Éternel et à observer ses ordonnances, ses préceptes et ses lois de tout son cœur et de toute son âme, afin de mettre en pratique les paroles de l'alliance écrites dans ce livre. Donc vous voyez, le présent va changer parce qu'ils vont mettre en pratique. Ensuite, verset 32, et il fit entrer dans l'alliance tous ceux qui se trouvaient à Jérusalem et en Benjamin. Et les habitants de Jérusalem agirent selon l'alliance de Dieu, du Dieu de leur père. Josias fit disparaître toutes les abominations de tous les pays appartenant aux enfants d'Israël, et il obligea tous ceux qui se trouvaient en Israël à servir l'Éternel leur Dieu. Pendant toute sa vie, ils ne se détournèrent point de l'Éternel, le Dieu de leur père. Et regardez, ensuite ils vont célébrer la Pâque au chapitre 35. Donc là, je ne vais pas vous lire tout le texte, mais regardez au verset 18. 2 Chroniques 35, 18. Donc la Pâque vient d'avoir eu lieu, comme au temps d'Ézéchias aussi. Aucune Pâque, pardon, pareille à celle-là, n'avait été célébrée en Israël depuis les jours de Samuel le prophète. Donc tout à l'heure, il n'y avait pas eu de Pâque depuis Salomon, et là, il n'y a pas eu de Pâque comme ça depuis Samuel le prophète, et aucun des rois d'Israël n'avait célébré une Pâque pareille à celles que célébrèrent Josias, les sacrificateurs et les Lévites, tout Juda et Israël qui s'y trouvaient, et les habitants de Jérusalem. Ça veut dire que plusieurs siècles après Samuel, c'est possible de revenir aux fondamentaux. Plusieurs siècles après Salomon, c'est possible de revenir aux fondamentaux. Dans le premier extrait, ils célébraient plus la Pâque. D'un seul coup, le roi dit, on va célébrer la Pâque. Les sacrificateurs disent, ah, mais on n'est pas prêt, on n'est pas purifié. Bon, bah, on reporte d'un mois parce qu'on n'est pas prêt. Et dans l'autre extrait, bah, on en a parlé, la Bible a disparu, l'Ancien Testament a disparu, la loi de Moïse a disparu. Et bah, pourtant, grâce à cette repentance, on revient aux sources. On revient à Salomon et on revient à Samuel. On a le même réveil dans la parole avec Néhémie et Esdras quand ils reviennent de la déportation. Il se passe exactement la même chose. Lisons ensemble Néhémie chapitre 8, versets 13 à 17. Et vous remarquerez que c'est toujours autour de la parole que le réveil se fait. Néhémie 8, versets 13 à 17. « Le second jour, les chefs de famille de tout le peuple, les sacrificateurs et les lévites, s'assemblèrent auprès d'Esdras, le scribe, pour entendre l'explication des paroles de la loi. Et ils trouvèrent écrit dans la loi que l'Éternel avait prescrite par Moïse, que les enfants d'Israël devaient habiter sous des tentes pendant la fête du septième mois, et proclamer cette publication dans toute leur ville et à Jérusalem. Aller chercher à la montagne des rameaux d'olivier, des rameaux d'olivier sauvages, des rameaux de myrrhe, des rameaux de palmiers et des rameaux d'arbres touffus pour faire des tentes comme il est écrit. Alors le peuple alla chercher des rameaux, ils se firent des tentes sur le toit de leur maison, dans leur cour, dans les parvis de la maison de Dieu, sur la place de la porte des eaux et sur la place de la porte d'Éphraïm. Toute l'assemblée de ceux qui étaient revenus de la captivité fit des tentes, et ils habitèrent sous ces tentes. Depuis le temps de Josué, fils de Noun, jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël n'avaient rien fait de pareil, et il y eut de grandes réjouissances. Depuis quand ? Depuis Josué. Je trouve, honnêtement, ces trois passages sont fabuleux. C'est-à-dire que ça se passe dans des situations difficiles. Là, ils reviennent de la déportation, ils n'ont pas d'armée. Les murailles ne sont pas reconstruites. Le temple l'est peut-être. Je crois que le temple est reconstruit. Mais en tous les cas, ce sont pas des jours gais. Et ben néanmoins, ils reviennent à la parole et il va se passer de la repentance, bien sûr, mais il va se passer aussi une grande joie, une fête telle qu'il n'y en a pas eu depuis Josué. Donc vous voyez les références, Salomon, Samuel, Josué. Ça veut dire que Dieu s'attend à ce qu'on revienne aux fondamentaux, mais de manière vraiment radicale, qu'on n'ait pas peur d'aller jusqu'au bout. Vous savez, lorsque Josias a produit le réveil dont on a parlé tout à l'heure. En 2 Rois 23:13, il est dit, le roi souilla les hauts lieux, donc les hauts lieux, c'est des lieux où on adorait les idoles, le roi souilla les hauts lieux qui étaient en face de Jérusalem, sur la droite de la montagne de perdition, et que Salomon, roi d'Israël, avait bâti. C'est-à-dire que c'est Salomon qui avait bâti ces hauts lieux. Eh ben, Salomon ou pas, Josias a mis la parole de Dieu au-dessus de Salomon, au-dessus de la tradition, au-dessus de la notoriété d'un homme. Et vous voyez, c'est ça la vie devant Dieu et devant sa parole. C'est-à-dire qu'il faut être sûr de l'interprétation du texte, bien entendu. Mais quand on en est sûr, on a une conviction, il est important d'être radical. Et c'est ainsi que les plus jeunes peuvent susciter, si besoin est, dans la volonté de Dieu, des réveils spirituels. Il ne faut pas avoir peur de revenir aux fondamentaux. Et il en est de même. Donc je vais m'arrêter là bientôt, mais pour l'avenir. C'est-à-dire que quand on regarde Apocalypse, qu'est-ce que l'auteur veut dire ? Il veut nous parler aussi de l'attente future. C'est elle qui va nous garder. Dans 1 Pierre 1,13, tout comme on remet en valeur ce qui s'est passé, et les textes d'ailleurs que nous avons lus nous parlent de quoi ? De la Pâque, c'est-à-dire de la mort de Christ, de ce qu'il a fait pour nous. Ça nous parle d'un retour à la parole de Dieu. Donc ce sont les éléments clés que nous devons avoir en tête. La joie du salut qui va devenir notre force, et on voit ça dans le livre de Néhémie justement. Mais dans 1 Pierre 1,13, s'agissant du futur, il est dit « C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement ». Donc l'entendement, c'est que parfois dans le présent, notre entendement est un peu perturbé. « Soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra ». Wow. Il y a encore une grâce qui m'attend. Des fois, j'ai l'impression que j'ai tout reçu, que Dieu peut plus m'en donner parce que je viens tellement de loin qu'il m'a donné toutes les grâces qu'il faut et j'espère qu'il y en a assez pour jusqu'à la fin de ma vie. Mes amis, il y en a même jusqu'à l'apparition du Seigneur. La grâce qui nous sera apportée lorsque le Seigneur apparaîtra. La grâce de ressusciter, la grâce de plus être malade, la grâce de plus mourir, la grâce de ne plus pécher, la grâce de plus pleurer. La grâce de ne plus être jaloux, la grâce de ne plus être amer, la grâce de ne plus être colérique, la grâce de ne plus être feignant, la grâce de ne plus être hypocrite, la grâce de ne plus être passif. Enfin, je peux multiplier la grâce. Regardez ce que Jean dit dans 1 Jean chapitre 3, versets 2 et 3. 1 Jean chapitre 3, versets 2 et 3. « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque ce sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. C'est-à-dire que le présent va être plus pur, la sanctification va être plus efficace parce que j'ai cette espérance d'être un jour comme lui. Dans le passé, j'avais jamais pensé à ça. Dans le passé, Jésus a été comme moi à la croix. Et dans le futur, je serai comme Jésus. Dans le passé, Jésus a été comme moi, il a pris mes péchés. Et dans le futur, je vais prendre sa pureté et sa sainteté. Quand je le verrai, je serai comme lui. Que Dieu vous bénisse.